Et on va lire ensemble dans le premier livre des Rois, au chapitre 10, les versets 21 et 22. Un Roi, chapitre 10, versets 21 et 22, ça nous ramène au temps du règne fastueux de Salomon. Et nous lisons ceci, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de l'Iram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Amen. Voilà, je voudrais qu'ensemble, on réfléchisse sur ces quelques précisions que nous rapporte la parole de Dieu concernant le règne de Salomon dans une phase. On pourrait dire d'établissement. Son règne est établi. Après 20 ans de construction où Salomon a bâti le temple, puis son palais, alors il y a maintenant un règne bien établi, une réputation, j'allais dire internationale, puisque même la reine de Séba fera un long voyage. Après avoir entendu la renommée de Salomon, elle va faire un long voyage pour le rencontrer et pour en savoir plus. Et quand elle va le rencontrer, elle dira, mais on ne m'en avait pas dit la moitié. Hein? Elle est complètement éblouie par le faste de Salomon, son intelligence très développée et la richesse surabondante, même le moindre de ses serviteurs était habillé comme un prince, hein. C'était extraordinaire. Donc c'est une phase où son royaume est établi. Et puis il y a ce verset 22 que nous venons de lire et que je voudrais qu'on puisse méditer ensemble, que je perçois, moi, comme une petite fausse note. Une fausse note. Un petit signe, un petit signe, une alerte. On est quand même étonné que ce roi qui a reçu une telle sagesse de Dieu, qui a été tellement béni par le Seigneur, qui a tout reçu du Seigneur, ait eu envie, je pourrais dire, de compléter au don que Dieu lui avait procuré en envoyant tous les 3 ans des expéditions en mer jusqu'à Tarsis pour importer de Tarsis 5 éléments, de l'ivoire, de l'or et de l'argent, et plus surprenant, des singes et des paons. Étonnante importation. Et j'aimerais ce soir, pardon, pour que nous réfléchissions sur les importations de Salomon. Et bien sûr, on va faire une projection spirituelle avec l'Église que le Seigneur Jésus a établie au milieu d'une humanité en perdition, à qui il a adressé une mission qui est une mission d'exportation, parce que l'Église doit exporter. On est d'accord? L'Église doit répandre, l'Église doit diffuser, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia! Et puis tout le programme qu'il va léguer à ses disciples, ressusciter les morts, purifier les lépreux, guérissez les malades, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à exporter. et à ne pas tomber dans la séduction de l'importation. Ce n'est pas le monde qui va enrichir l'Église, mais c'est l'Église qui va enrichir le monde. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. C'est nous qui, de la part de notre Seigneur, sommes destinés à enrichir le monde. L'apôtre Paul dira, nous sommes regardés comme pauvres, mais voici, nous en enrichissons plusieurs. Un jour, il y a une petite mamie à vue humaine complètement banale qui est venue sonner à notre porte et qui nous a rendu témoignage de Jésus-Christ. Et elle nous a enrichis. Gloire à Dieu. Elle a exporté le trésor qu'elle détenait. Elle nous a parlé de Jésus. Elle a dit à ma propre mère, ma fille, je n'en vois qu'un qui peut te sortir de l'état désespéré qui est le tien. Dimanche, viens, Jésus va te bénir. Et toute ma famille a été sauvée. Gloire à Dieu. Elle a enrichi. Elle a diffusé, mes frères et mes sœurs, en congé ou en année d'activité, nous sommes amenés à être des dispensateurs, des trésors de Dieu. Dieu veut t'utiliser pour exporter le trésor que tu détiens, et non pas pour importer. Un vieux cantique dit, ce monde ne m'a rien apporté, il ne peut rien m'enlever. Donc n'attendons rien de ce monde, si ce n'est quelques rêves illusoires, quelques artifices, mais prenons conscience que nous sommes les privilégiés, sommes des femmes qui, connectées au ciel et au Dieu du ciel, bénéficient des richesses d'en haut. La Bible nous dit tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Pas de Tarsis, mais d'en haut, du Père des Lumières. Et le Seigneur nous bénit, nous enrichit. Alléluia. La Bible me dit, le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Elle me dit aussi, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde est bien convaincu qu'il ne manquera jamais rien aux bénédictions que le Père Céleste répand sur ses enfants, il n'y a pas besoin d'y compléter en quoi que ce soit. Alléluia. Donc, voilà, ne cherchons pas du monde quelques richesses à importer, mais comprenons que le monde est désespérément pauvre. On parle d'importation et d'exportation. Ça, c'est la définition d'une balance commerciale. Où chaque pays fait les comptes annuellement, les balances commerciales. La balance commerciale de la France en 2022 était déficitaire de la bagatelle de 164 milliards d'euros. En 2023, ça va beaucoup mieux. Le déficit n'est que de 100 milliards d'euros. Là, en 2024, de janvier à mai, en 5 mois, il y a déjà un déficit de 86 milliards d'euros. Ces déficits de balance commerciale expriment le delta, l'écart entre les importations et les exportations. Est-ce que je peux employer l'expression que la balance commerciale de l'Église, au plan spirituel, doit toujours être excédentaire? L'Église doit exporter, diffuser, répandre. C'est l'Église qui peut enrichir le monde et il n'en sera jamais le contraire. Le monde ne peut rien apporter à l'Église. Alors, voilà la grande erreur que Salomon fait, parce qu'après, il va importer aussi des femmes étrangères. Vous voyez, les importations continuent. Et il va avoir, bon, 300 femmes. 700 concubines pour les scènes de ménage. Ça a fait un trou dans les allocations familiales. On est trop. 300 femmes, 700 concubines. Que de chino pépé, que de griffures, que de scènes de ménage. Il a importé, il est tombé dans le piège de l'importation, il n'a pas compris, à un moment donné, sa sagesse lui a échappé et il s'est laissé comme infiltré par des conceptions étrangères. Il s'est mis à importer. Alors que ma Bible me dit ceci, quel passage merveilleux. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens mon Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Est-ce que ce programme vous intéresse? Eh bien, il découle d'un choix, d'une décision personnelle, faire de l'Éternel notre richesse. Ma richesse est Jésus. Oui ou non? Ma richesse est le Seigneur. Et Paul dira, si vous êtes bien, affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux richesses d'en haut. Amen. Et le Seigneur lui-même va nous dire avec beaucoup de réalisme que ici-bas, tout ce qu'on peut amasser est accessible à la rouille, au voleur, à la teigne, autrement dit, à la dégénérescence. Les trésors les plus éblouissants ici-bas sont éphémères. Alors, amassez-vous un trésor dans le ciel. Gloire à Dieu. Est-ce que ton compte épargne éternité est bien garni dans le ciel, hein? Il faut travailler à se confectionner un trésor dans le ciel. Au niveau de la richesse, que le Seigneur nous garde toujours bien conscients des réalités et que nous mettions de côté les artifices séduisants de l'adversaire et les véritables richesses, n'a rien de plus précieux que de connaître le Seigneur Jésus.
Amen.
Qui nous appartenir, de savoir qu'un jour nos yeux vont le voir. Alléluia. Jour, nous serons délivrés des vicissitudes d'en bas et nous entrerons dans le parfait. Oh, quelle perspective glorieuse! Ça, c'est notre richesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il a importé, donc je disais, cinq éléments. Je viens d'en citer un, c'est l'or et l'argent qui parlent donc de la richesse. La richesse, notre belle richesse, c'est le Seigneur. Mais il a aussi importé de l'ivoire. Et avec cet ivoire, il s'est confectionné un trône. Et le trône de Salomon, la Bible dit qu'il n'y en avait pas de semblable nulle part ailleurs. Un trône avec 6 degrés, avec des lions de part et d'autre à chaque degré, c'était impressionnant ce trône. Une merveille de sculpture, c'était éblouissant. Symbole de l'autorité royale, du règne. Notre autorité ne s'importe pas de Tarsis, mais elle se reçoit d'en haut. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un que le Seigneur à qui tu appartiens te donne son autorité. Amen. Et que tu dois te défaire des images faibles, frêles, malingres, fragiles de ta personne. Nous sommes tous avec nos limites, mais en Jésus-Christ, Nous sommes investis d'une autorité. Gloire à Dieu. Je vous ai donné le pouvoir, va dire Jésus. Amen. C'est fait. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Si je reçois cette parole et je me l'applique, ça va donner à ma marche chrétienne une autorité. Une autorité. Il y a eu des courants qui ont essayé d'ébranler l'assurance des croyants et de les persuader que plongés dans une société où les ténèbres règnent, il pourrait y avoir des influences qui pouvaient leur nuire. On a entendu, c'était une mode il y a quelques décennies en arrière, des messages subliminaux que dans les musiques publicitaires des grandes surfaces, le diable faisait passer aux oreilles du public. Vous voyez, il y avait des tas de théories alambiquées qui circulaient un petit peu. Et pour ma part, j'ai eu besoin de renforcer la foi de certains chrétiens qui étaient ébranlés dans leur assurance et qui craignaient de sortir, de faire les courses. Ils étaient profondément perturbés. Et revenir à la parole de Dieu et relire l'affirmation du Seigneur « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'adversaire » va me procurer une autorité. Amen. Une autorité, c'est quelque chose que l'adversaire ne contestera en aucun cas. C'est quelque chose qui va s'imposer, c'est quelque chose d'objectif, elle ne se négocie pas. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le grand vainqueur du Golgotha m'a donné son autorité afin que dans ma marche chrétienne, au milieu des pièges, des épreuves, des ruses et de tous les traquenards qui pourraient se présenter, je puisse marcher de victoire en victoire. Ce que Dieu veut pour toi, c'est la victoire. C'est une marche victorieuse. Et c'est que tu exerces une autorité. Alléluia. Il vociférait, il s'agitait, il voulait précipiter Jésus du haut de la falaise. Jésus se tourne, il les regarde, il fait un pas, tout le monde recule. Plein de deuxième, on recule. Et il s'en va, paisiblement. Quelle autorité! Gloire à Dieu! Parfois, les rugissements du lion dévoreur essayeront de t'effrayer. Mais tu as reçu l'autorité suprême, de Christ lui-même. Gloire à Dieu! Le serpent est dangereux à la tête, le scorpion est dangereux à la queue. Autrement dit, de la tête à la queue, le pouvoir de l'ennemi nous est soumis. Si nous sommes en Jésus-Christ, armés, équipés, établis sur la parole de Dieu, et Salomon a fait cette erreur. Il a pensé que l'autorité de son règne, établi par Dieu, serait améliorée, serait conforté par de l'importation. On n'a pas besoin de ces importations puisque nous, notre autorité, nous la recevons en haut. Que le Seigneur soit bénéfique. Chaque matin, lorsque tu es dans ta cuisine et que tu es en train de prier, d'adorer le Seigneur, de parler en langue, tu t'édifies toi-même, tu te remplis du Saint-Esprit et tu commences ta journée avec une autorité. Amen. Même les journées dont tu sais qu'elles vont être délicates, dont tu sais que tu auras des problèmes qui arriveront, si le matin, tu t'investis de l'autorité du Seigneur, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de Jésus, tu entres dans le programme de la journée avec cette autorité, la sagesse, la paix, sérénité divine seront ton partage et tu expérimenteras que finalement, le Seigneur qui vit en toi s'occupe d'aplanir, de débroussailler, de détricoter les situations, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voulons vivre ces choses. Amen. Nous voulons vivre ces choses. Il va aussi importer, alors, nous dirons son but tout à l'heure, des singes. Il a importé des singes. Des singes, c'est comme le disait un vieux pasteur, un singe, ça singe. Comment dit-il? Ça nous parle des imitations, des mimétismes, des contrefaçons. Il y a l'authentique et il y a la contrefaçon. Il y a l'œuvre de Dieu et il y a les imitations de l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est pas nouveau, parce que dès le palais de Pharaon, quand Moïse fait un prodige, les magiciens du Pharaon imitent le miracle. Sauf que, finalement, c'est le serpent de Moïse qui a mangé tous les serpents des autres. Il a fait le message. Hein. Mais, comme le disait un vieux pasteur, le diable, c'est le singe de Dieu. C'est le singe de Dieu. Il va essayer, pour induire en erreur, de contrefaire les œuvres authentiques de Dieu, de les contrefaire. Et mes frères et mes sœurs, en matière de la foi, nous vivons des temps où plus que jamais, il nous faut développer notre capacité de discernement pour rapidement faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui est de la contrefaçon. Amen. Non, non, les 3 barres ne suffisent pas pour que ça soit vraiment de la glace. Moi, j'avais un de mes beaux-frères quand il était jeune, 12 ans. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Il décousait les crocodiles des vieux maillots. Et il les cousait sur des maillots qu'il avait achetés 6 euros au Monoprix et il mettait de la poste. C'est de la contrefaçon, hein? Nous vivons un temps où parfois le diable va combattre frontalement la vérité, parfois il va proposer des contrefaçons de vérité. Et Jésus, parmi les signes précurseurs à son retour, placera en première liste la séduction. Dis-nous quand se fera ton retour. Alors il explique, et le premier signe eschatologique, c'est la séduction. La séduction, son antidote, c'est le discernement. Et on a besoin de discernement. Gloire à Dieu. La séduction, il y aura de faux prophètes, des contrefacteurs, il y aura des faux Christ, et il y aura des faux Christ qui feront de grands faux miracles. Parce qu'ils feront de grands miracles, afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Et nous vivons ce temps, frères et sœurs, nous le vivons, et voyez-vous, j'y reviens. La nécessité prioritaire, c'est que dans la communion avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur, nous développions notre discernement. Notre discernement. Un dimanche, en fin de culte, c'était pas dans la région, et ça remonte à pas mal d'années maintenant, j'entends au fond une équipe de sœurs dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont? Je me renseigne, et effectivement, à ce culte, il y avait un gars qui rendait visite à l'église. Il était en train de parler à un groupe de sœurs, là, Alléluia, Alléluia. Alors, je me suis renseigné un peu et j'ai pris rendez-vous avec cet homme. Et dans la semaine, je suis allé le rencontrer et je lui ai dit, mais présentez-vous, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et il se présente, et les yeux dans les yeux. Moi, j'ai reçu un ministère spécial. Bon, c'est celui de visiter les églises et de récupérer les brebis faibles. Bon, je lui ai dit, vous ne visiterez plus la même. Je ne pouvais pas les guider. C'était un récupérateur, un médecin qui voulait profiter, exploiter. Et ces braves sœurs, alléluia, alléluia, je leur ai dit quand même, il y a un peu de discernement. Oh, discernement, c'est pas parce que, en trois, quatre phrases, quelqu'un va vous parler, et vous donner des témoignages merveilleux, etc. J'ai rencontré un Africain qui un jour me disait, un jour j'ai eu une telle onction que l'huile sortait de mes mains. Faut quand même arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il faut avoir un petit peu de discernement. Et on a besoin. Dans ces temps tellement confus, où l'apôtre Paul nous diront que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est agréable d'entendre des trucs spectaculaires comme ça, voyez? Non, mais c'est pas l'agréable qui doit nous intéresser, c'est l'authentique. C'est l'authentique. Et donc, on a besoin, voilà, de discernement. Ceci dit, je prie le Seigneur pour qu'il y ait de plus en plus d'authentiques miracles parmi nous. Oui ou non? Parce que le Seigneur continue à faire ses œuvres, hein, gloire à Dieu. Heureusement que le Seigneur, dans ce temps de confusion, agit, confirme l'évangile par des miracles authentiques qui ont sa signature, alléluia, et nous prions pour qu'il en soit de plus en plus de la sorte, alléluia. Et puis, le dernier élément d'importation, c'est les paons. Et vous le savez, c'est l'animal qui souvent est utilisé pour parler de l'orgueil. Réunion. Quand il déploie. C'est le symbole de l'orgueil. Mais c'est vrai que finalement, quand on rencontre des situations problématiques, quelles qu'elles soient, et qu'on remonte à l'origine, presque toujours on trouve l'orgueil. Bon. Vous savez que c'est quand même, puisque dimanche je parlais sur le commencement, il y a eu un certain commencement où l'ange de lumière, créé par l'Éternel, et qui avait reçu quand même une position élevée dans la population angélique, Lucifer, l'ange de lumière, chérubin protecteur. Il avait comme mission, par exemple, de protéger le trône de Dieu qu'il avait reçu en outre une responsabilité d'orchestrer toute la louange dans le ciel. La musique, la louange. Il avait reçu une gloire supérieure à la plupart des créatures angéliques. À un moment donné, il conçoit une pensée. Et si je mettais mon trône au-dessus du trône de Dieu? L'orgueil trouve sa source dans la pensée de cet ange de lumière qui a conçu une idée, une démarche, supplanter l'autorité d'un créateur en plaçant son trône au-dessus du sien. Et bien sûr, il a été immédiatement sanctionné, mais ce mal, il l'inocule dans la nature humaine par le moyen du péché. Et ce monde qui, je dirais, fondamentalement est marqué par une tendance à l'orgueil pourrait nous influencer. C'est pourquoi la Bible est très claire, j'allais dire même sévère, mais juste. Elle sanctionne l'orgueil. L'orgueil excède la ruine, l'orgueil excède la chute, et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Il fait grâce aux âmes. Quelle différence dans l'aspect dont Christ s'est revêtu en s'incarnant. Il vient comme un serviteur. Comme un simple homme, nous dit Philippiens 2. Et quand il s'approche de Jérusalem, alors que les grands de ce monde avaient des chars tirés par des purs sang, lui, il prend un ânon. Un ânon. Et la Bible dit, ton roi vient à toi. Plein de douceur. Et assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est comme cela que Jésus vient. Et puis ce soir-là, au cours de ce repas, il se lève brusquement. Les disciples se disent, qu'est-ce qui arrive? Il se lève. Il se change, il enlève sa belle tunique d'une seule pièce et il se revêt d'un pagne d'esclave. Il prend une bassine d'eau et il s'avance vers Pierre. Il s'agenouille devant Pierre et il veut lui laver les pieds. Quel tableau, quelle scène! Le roi terrible. Vous connaissez bien sûr ce récit. Quel impact! L'attitude du Christ a eu sur Pierre et sur chacun de ses disciples. Et quand il finit, il va laver les pieds de Judas. Et quand il finit, il remet son vêtement, s'assoit. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'unité fraternelle sans humilité. D'accord? On peut toujours crier, etc., jeûner, on fera des cribots peut-être, mais. Sans humilité, il n'y aura pas d'unité. L'humilité fait grâce aux hommes. Notre humilité exprimée fait écho à l'humilité exemplaire de Jésus. Voilà. Et ça, c'est glorieux. Notre humilité. Mais. Qu'est-ce que ça peut me faire de laisser, de renoncer, de ne pas me défendre, de ne pas me justifier? Mon Seigneur a fait de même. Il a gardé le silence face à des gens infâmes. Il est resté paisible. Il n'a pas répondu. Il n'est pas entré sur le terrain de la dispute, de l'argumentation conflictuelle. La confrontation d'arguments, c'est l'humilité. Et je crois que c'est tellement important dans ce siècle où c'est l'orgueil et l'homme qui est mis sur un piédestal, nous, de nous singulariser en produisant ce fruit divin de l'humilité. Amen. L'humilité, ce n'est pas un complexe d'infériorité. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que tous. Mais en même temps, il pouvait dire, je suis le plus grand des pécheurs. Voyez? L'humilité, ce n'est pas une question de posture. Moi, je suis arménien, vous finirez par le savoir. Hein? Et quand j'étais gosse, je regardais les vieilles religieuses, les bigotes grégoriennes. Ah, elles avaient une posture, sauf qu'à la maison, elles étaient cancanières, critiques. Ma grand-mère, elle n'arrêtait pas de critiquer ma mère. Et moi, 7 ans, 8 ans, j'entendais ça. Quand même, si Dieu est comme ces gens-là, je ne peux pas. Heureusement que rapidement, je les rencontrais quand même. Hein. L'humilité, ce n'est pas une question de posture. Ce n'est pas une question d'intonation, mais c'est une question qui est ancrée au plus profond de notre mentalité, notre cœur, l'humilité. L'orgueil du monde ne doit pas s'infiltrer dans l'atmosphère et dans la vie interne de l'Église. Que le Seigneur nous garde humbles. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu vois, mon frère, ma sœur, tu as tout reçu d'en haut. Point n'est utile d'importer nous. Par contre, exportons l'évangile. Amen. Tout à l'heure, quelqu'un a prié pour qu'à la rentrée, l'évangélisation puisse redémarrer avec notre Église et bien que nous puissions vivre une année, en effet, de moisson, d'évangélisation, de témoignage. Remets-toi à dire autour de toi combien Dieu est bon. Amen. Distribue, exporte, que ta balance commerciale soit excédentaire et non pas déficitaire. Alléluia, on va prier le Seigneur.